pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Diffusons un montage que nous avons réalisé sur la base des prises de parole qui avaient été faites lors du premier apéro critique de la Maison ouverte à Montreuil qui avait lieu le 19 septembre 2023 dernier. Bonne écoute.
Bah, bienvenue à la Maison ouverte pour la reprise des apéros critiques de cette année. On avait voulu commencer avec un sujet tourné vers l'international, suite à l'actualité de ce qu'il y a eu cet été, une volonté un peu de réfléchir finalement, 2 ans qui viennent de s'écouler dans la zone sahélienne et une succession de coups d'État militaires qui ont commencé en 2020 au Mali, 2022 au Burkina. Et cet été, le 26 juillet, des militaires proches de l'ancien président ont également réalisé un coup d'État au Niger, je disais. La junte militaire a été en froid ou en opposition avec l'ancienne puissance coloniale française, ce qui soulève de nombreux débats autour de la continuation de la présence française dans cette zone-là, ce qu'on peut qualifier de néocolonialisme ou de présence coloniale persistante. Énormément de questions également sur les contextes de chacun des pays, dans quelle mesure ce sont des problématiques internationales qui sont en jeu, dans quelle mesure on a affaire aussi à des problématiques qui sont plus d'ordre local, l'historicité de chacun des pays à prendre en compte. Bref, l'idée étant un peu de débroussailler ensemble cette situation. Donc Alassane Diko, tu es malien ivoirien et tu es membre...
Sahélien plutôt.
Donc, Alassane Diko, sahélien, membre d'Afrique Europe Interact. Tu es actuellement en Côte d'Ivoire. David Mogé et Bruno Jaffré, vous êtes membres de Survie, l'association Survie. David, tu es contributeur de l'ouvrage Une histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir. Et Bruno Jaffré, tu es rédacteur d'un blog sur Mediapart sur le Burkina Faso. Alassane, comment tu te, en tant que militant impliqué directement sur place, tu te positionnes face à cette nouvelle situation dans la région sahélienne?
Aujourd'hui, on se trouve au-delà des ruptures, on se trouve sur des lignes de fracture. Mais il faut repartir à une lecture point par point, selon les carrefours historiques qui sont déjà passés et dont nous en sommes à une des périodes actuelles. Dans le Sahel, à part le Sénégal déjà, et moyennement la Côte d'Ivoire, mais à part le Sénégal, mais il faut bien reconnaître que la plupart de nos pays, ils n'ont jamais quitté les coups d'État. Même s'il y a des années entre certains coups d'État, mais que ce soit le Burkina Faso, anciennement votre Volta, que ce soit le Bénin, le Togo, qui a même fait, qui a enclenché ce type de processus avec Jules-Christ Olympio, que ce soit le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie, chacun de ces pays a inscrit l'évolution de son histoire politique dans et à travers les coups d'État. Donc, ce n'est vraiment pas pour les populations et pour les Africains, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, ni quelque chose d'incroyable ou de surprenant. Les surprises de coups d'État, particulièrement, peuvent venir en termes de surprises en Afrique. Les coups d'État peuvent venir en surprise lorsque c'est des régimes de longue durée. S'il y a un coup d'État au Congo ou au Cameroun, vous verrez que tout le monde va crier libération parce que c'est des régimes qui ont fait leur temps et qui ont fait toutes leurs preuves dramatiques. Il en est de même pour les gouvernements successifs qui sont passés dans nos pays en Afrique de l'Ouest. En Guinée, il y a eu au moins 3 à 4 coups d'État jusqu'à aujourd'hui. Au Niger, pareil, et de façon sanglante. Au Mali, nous sommes au 4e. Au Burkina, nous en sommes peut-être au 5e ou 6e. Qu'est-ce qui a changé ou bien qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est le fait déjà que l'on oublie très facilement que de façon, dans la trame historique des libérations des peuples ou des libérations nationales, dans l'Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de pays francophone qui a eu son indépendance à la suite d'une lutte armée. Non. Toutes les indépendances, si cela peut s'appeler comme ça, ont été des passations d'un contrat à un autre. Ce qui dit que il faut faire la relecture de la trame même des libérateurs comme Sékou Touré, comme Oufoué Boigny, comme Modibo Keïta, comme Amani Diori ou comme pour le Burkina. C'est-à-dire que nous avons eu affaire à des populations, bien sûr, à 80% illettrées, on va dire. Mais nous avons affaire à des populations dans leur évolution sociale de post-colonialisme, mais même durant la période des luttes contre le colonialisme dans l'Afrique de l'Ouest, ce sont les populations qui se dressaient. Et ce sont ces populations qui ont fait les leaders là. L'on oublie que nous avons affaire à des populations politisées, syndicalisées, et dont leurs attentes. Par exemple, vous voyez que la naissance du PDCI à travers une dynamique de révolte syndicale, de dénonciation, ce qui fait que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, la trame des histoires de libération a effectivement pas été faite armée. Elle n'a pas été gagnée par les armes, mais elle a été gagnée par des dynamiques de mouvements. Ces populations connaissent les mouvements, ils connaissent les mouvements à caractère politique. Vous voyez même du côté de l'Afrique centrale avec le Lumumba, ce n'était pas parce qu'on le connaissait ou qu'il était un leader ou qu'on sait qu'il va, mais ce charisme-là vient justement de l'attente des populations qui sont sortis du travail forcé, qui sont sortis du colonialisme de façon administrative ou politique, Mais après juste 10 ans, à partir des années 70, ces populations déjà ont commencé à voir que le modèle n'a pas changé, c'est la couleur des patrons qui a changé. Ces populations sont restées éveillées sur l'évolution. Les ressentiments, les impressions, les appréhensions sont longues à se construire. Je veux dire que, comme vous remarquez, dans chacun de ces pays-là, lorsque il y a des remous sociaux ou des remous politiques, en fait, je vais dire qu'il suffit que les mots d'ordre soient bien lancés pour les peuples et vous voyez, tout le monde sort. Parce que justement, les populations s'attendent. Aujourd'hui, on parle de changement. On peut dire après qu'est-ce que ça veut dire. Mais les populations, ils sont toujours dans la rupture de leurs attentes. Donc, chaque fois qu'on dit qu'il y a un changement, pour eux comme une manière de relancer leur espoir. Ce qui ramène en raccourci les applaudissements que l'on voit dans les rues à Ouagadougou, à Bamako, au Niger, une grande partie, ce n'est pas pour dire que nous sommes d'accord, mais c'est pour dire que voilà, nous nous repositionnons nouveau tournant pour changer. Changer quoi? Il s'agit que la population doit se sentir concernée et tout ce que vous savez à la suite, mais le fait est que la barrière de ce qu'ils appellent la démocratie importée, ce n'est pas une négation de la démocratie en tant que telle, mais c'est une négation de sa pratique par les élites dans nos pays. Donc, ce qui fait que les attentes, le passif colonial n'a pas été mis sur la table depuis longtemps, nous en voulons jusqu'à aujourd'hui à cette France-là de ne pas faire face à notre histoire commune. Et les populations ressentent cela dans toutes les formes de restriction de circulation, les visas, les sans-papiers, les politiques migratoires, les conditionnements qui mettent nos États sous pression. Les populations ressentent tout ça comme une négation de cette histoire historique qui demande à être ramenée et être communément partagé. Donc, c'est vraiment globalement ce refus de la France de porter une responsabilité de relevance historique commune avec les pays anciennes colonies. Ces ressentiments se transmettent des tirailleurs sénégalais depuis les cas dramatiques du camp de Tcharoï. Comment nos grands-pères sont revenus après avoir aidé à libérer Paris? Paris est devenu un symbole pour nous. C'est notre capitale, pas parce que c'est la capitale de l'ancienne colonie, pas par fixation de El Dorado, mais la Tour Eiffel représente pour nous l'aboutissement de notre coopération fraternelle. Ce qui nous a été mal retourné à travers simplement l'épisode dramatique de Tcharoï et aussi toute une longue durée d'années jusqu'à 30-40 ans avant de reconnaître les tout petits premiers droits à ces tirailleurs vaillants qui ont répondu à l'appel de la mère patrie, la France. Les populations gardent encore ce dépit, cette amertume. Et donc, lorsque, pour finir, des politiciens ou plus profondément encore, un réseau de propagande se met en place pour créer avec ces ressentiments, en faire des outils d'export de leur soutien à nos pauvres populations, en tendant la main aux, chefs de, aux nouveaux chefs qui sont là, je vais parler bien sûr de la Russie, ce qui ne fait que ramener déjà un vieux plat. Mais ça trouve des échos favorables justement parce que les populations sont toujours restées dans les attentes d'abord face à leurs politiciens véreux, puis papa, et les relations avec les institutions internationales que nous voyons comme des vampires, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, qui ont assujetti nos dynamiques de développement avec le programme d'ajustement structurel. Vous savez, pour terminer, que la période de sécheresse des années 68 à 78, premièrement, le passé colonial, deuxièmement, les attentes en longueur inassouvies, interrompues par les mauvaises gouvernances, mais dans les relations de liens de corruption avec les entités en Europe, les populations mettent tout cela ensemble. À la fin, on ne veut plus de politique, on ne veut plus d'élections, on ne veut plus de... parce que les choix n'ont jamais été les nôtres, et voilà, tout est chapeauté, comme la propagande le dit. Il y a du vrai un peu, mais une propagande aujourd'hui qui s'est installée, qui est venue de derrière la tête, la propagande russe, qui s'est installée progressivement depuis 2016 et qui était opérationnelle déjà à partir de 2017. Aujourd'hui, les populations sont dans l'expectative. Il est vrai que des activistes avec de l'argent des nouveaux gouvernements en place font de la mobilisation anarchique, mais cela ne détermine pas une profondeur de soutien. Il y a que au Mali, au Burkina, les populations souffrent, celles qui ne sont pas sous les coups de l'insécurité, elles souffrent de plusieurs problématiques sociales. Aujourd'hui, une grande partie des budgets de ces États va à l'armement, alors que c'est des pays qui ont d'autres priorités. Nous disons qu'il serait mieux d'avoir une troisième voie, puisqu'ils sont déjà là, mais il s'agit vraiment de tracer une troisième voie et, comme on dit, chasser un blanc pour prendre un autre blanc à la place. On ne peut pas parler de libération. Merci à la fin.
Avec des interventions de membres de l'association Survie.
L'association Survie, brièvement, elle existe depuis déjà 35 ans. Aujourd'hui, elle milite contre la Françafrique, contre tout ce qui constitue la domination néocoloniale de la France sur ses anciennes colonies. Et donc, l'association Survie documente à travers une revue qui s'appelle Billets d'Afrique, des livres qui sont publiés régulièrement dans la collection des dossiers noirs, tout ce qui concerne les différents aspects militaires, diplomatiques, économiques, à travers le franc CFA par exemple, qui constitue ce qu'on appelle la France-Afrique, et se préoccupe de ces évolutions, en essayant de montrer que même si les choses ont changé, sur le fond, il reste une base extrêmement solide de ce fameux empire qui ne veut pas mourir, comme dit le titre de ce livre. Donc là, il y a David Mauger et Bruno Jaffré qui sont membres de l'association. David Mauger va vous faire, je pense, une présentation un petit peu plus générale de qu'est-ce que la France-Afrique aujourd'hui et ce qui se passe actuellement au niveau des coups d'État en Afrique peut impacter l'avenir. Et puis Bruno Jaffré se concentrera plus spécifiquement sur la question du Burkina Faso, puisqu'il le connaît très bien. Il a travaillé beaucoup sur le Burkina et particulièrement sur la période où Thomas Sankara était au pouvoir.
Alors, je vais peut-être revenir sur les termes qui nous sont proposés dans le titre de la soirée. Coup d'État militaire, avenir de la France-Afrique, fin de la France-Afrique. On a tous vu cet été, effectivement, une succession de deux coups d'État. Le premier coup d'État dont on a entendu parler, c'était fin juillet, le 26 juillet au Niger, où le président Bazoum a été renversé par le général Tiani. Quelques semaines plus tard, c'était au Gabon, donc pas au Sahel, hein, un petit peu plus au sud, mais l'un des pays qui fait partie de ce qu'on appelle le précaré français, où il y a eu, de manière interne au régime, le chef de la garde présidentielle qui a renversé Ali Bongo après des élections absolument frauduleuses. Et donc, on est amené à s'intéresser sur ces répétitions de coups d'État. Bruno nous parlera du cas du Burkina. Quelques années avant, il s'est passé aussi des coups d'État au Mali, mais aussi en Guinée, au Tchad. Donc voilà, l'Afrique francophone actuellement est confrontée à une série de changements de régime brutaux, la plupart du temps, avec des militaires qui arrivent au pouvoir. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, je pense qu'on a besoin de revenir dans le passé, de voir un petit peu les points communs qu'il peut y avoir. Alassane a très bien parlé tout à l'heure du besoin de changement qui s'exprime dans les rues de toutes ces capitales où se passent ces événements. Mais on a aussi besoin de revenir plus loin en arrière pour comprendre la manière dont la France a perduré malgré l'indépendance dans les pays de son précaré et de comprendre qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait véritablement penser qu'il y a un changement du point de vue de la France-Afrique. On analyse la France-Afrique comme étant des structures en perpétuelle évolution tout au long de l'histoire. En fait, d'abord au cours de la colonisation, et après, malgré les décolonisations, et donc on aboutit aujourd'hui à une époque qui est néocoloniale. On a décrit tout au long des travaux de l'association la France-Afrique, notamment à travers des piliers tout à fait institutionnels. L'un qui a cours dans toute l'Afrique francophone, c'est le franc CFA. Donc c'est cette monnaie. On a deux zones francs en Afrique francophone, une en Afrique de l'Ouest et une en Afrique centrale. Ces deux francs CFA distincts, qui ne sont pas échangeables, mais qui ont des structures communes, puisqu'ils sont à parité fixe, historiquement avec le franc et maintenant avec l'euro. Et ce sigle franc CFA, ça signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Le sigle a changé de signification au cours du temps, mais c'est toujours le franc CFA dont on parle. Une deuxième structure importante de la France-Afrique, ce sont ces bases militaires. En fait, lorsque la plupart des pays du précaré français accèdent à l'indépendance en 1960, pour ce qui est des pays du Sahel et puis même de la bande côtière, cette indépendance est une indépendance de façade, dans la mesure où elle s'accompagne de la mise en place d'un certain nombre de chefs d'État qui vont être affiliés aux intérêts de la France. Et va y avoir un certain nombre d'accords, dits accords de coopération, accords de défense, qui sont signés dès 1961 et qui vont véritablement brider les indépendances. En avril 1961, en fait, il y a une série de quatre accords qui sont signés, des accords de défense, qui concernent le Dahomey, qui plus tard deviendra le Bénin, la Haute-Volta, plus connue sous le nom de Burkina Faso aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Niger. Donc notamment deux des pays auxquels on s'intéresse plus particulièrement ce soir, à savoir le Niger et le Burkina Faso. Ces accords de défense, ils portent notamment sur les aspects militaires proprement dits, à savoir la possibilité pour les troupes coloniales de rester sur le sol africain, malgré l'indépendance. C'est-à-dire que la base du 43e Bima, par exemple, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui jouxte l'aéroport d'Abidjan, c'est une base qui existait au temps de la colonisation et qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de discontinuité. Les soldats français sont présents depuis l'époque coloniale. Ils n'ont jamais quitté le pays. Donc, pour faire un petit peu, pour balayer des bases françaises actuellement en Afrique, la plus grande est à Djibouti. La deuxième en importance, c'est à Abidjan. Et après, il y a deux autres bases permanentes, l'une à Libreville au Gabon et l'autre à Dakar au Sénégal. S'ajoute à ça des soldats français qui sont présents, notamment dans la bande sahélienne, dans le cadre des opérations extérieures. Donc à partir de 2013, il y a eu Serval au Mali, et ensuite qui s'est transformé en Barkhane, et qui s'étendait sur les cinq pays de la bande sahélienne, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. J'ai parlé des accords de défense d'avril 1961. Il y avait un deuxième volet de ces accords de défense qui concerne les matières premières. Et selon cet accord de 1961, eh bien, on imposait à ces pays de réserver les matières premières stratégiques en priorité à la France. Ils ne pouvaient pas exporter ces matières premières sans en référer d'abord à la France. D'accord ? Donc, ces accords n'ont plus cours aujourd'hui, hein, mais c'est pour montrer un petit peu toute l'historicité qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup des intérêts français au Niger à travers l'uranium. C'est quelque chose où il y a une continuité historique, en fait. Hein, et l'uranium du Niger, c'est ce qui a permis de faire croire pendant si longtemps que, grâce au nucléaire, la France avait l'indépendance énergétique. Et c'est surtout celui où il y a plus de bénéfices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gouvernement du Niger n'arrive pas à se faire entendre suffisamment, de manière suffisamment forte, auprès d'Orano, et donc il y a très peu de taxes sur les exportations du Niger, comme c'est le cas dans la plupart des pays du précaré français. Alors que l'uranium qui vient du Canada ou qui vient du Kazakhstan, lui, pour le coup, est beaucoup plus lourdement taxé. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux économiques aussi qu'il y a derrière les intérêts français, en fait, dans tous ces pays du précaré. Il semble qu'il y ait une permanence de la part des élites françaises à penser que maintenir une forme d'impérialisme français sur son précaré, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai que ça se traduit sur la scène mondiale par une voix importante de la France. Pour rappel, la France est l'un des cinq pays au siège de sécurité de l'ONU. Donc c'est issu de l'histoire et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, au même titre que le Royaume-Uni, que les États-Unis, que la Chine et que la Russie. Bon. Aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan militaire, la France est une puissance de second rang, mais dans l'esprit des élites françaises, c'est extrêmement important. On dit, par exemple, que les résolutions concernant les pays du précaré français à l'ONU sont de manière systématique écrites par la France. C'est ce qu'on appelle tenir le stylo. Et donc, la diplomatie française se fait fort, justement, de continuer d'avoir ce rôle-là. Bon. Pour la France, ça concerne le précaré en Afrique, mais ça concerne aussi la Polynésie, ça concerne aussi la Nouvelle-Calédonie. Tout ça, ce sont des territoires qui, aux yeux de l'ONU, continuent d'être sur la liste des territoires à décoloniser. Et c'est pour ça que la France, malgré elle, doit continuer d'avoir un certain nombre de processus d'autodétermination concernant la Nouvelle-Calédonie. Et la Polynésie française, récemment, a remis ça à l'ordre du jour. Ça n'arrive pas encore à percer, mais c'est encore à l'ordre du jour. Voilà, donc c'est vraiment à l'aune de ces piliers qu'on peut juger vraiment d'une évolution ou du manque d'évolution. Alors, la nature des coups d'État est quand même relativement différente d'un pays à l'autre. Alors, tout ce qui se passe dans la bande sahélienne ne peut pas être compris si on ne se souvient pas qu'en 2011, il y a eu une énorme opération militaire pour mettre fin au régime de Kadhafi. Donc, évidemment, le colonel Kadhafi était un dictateur, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qu'il jouait un rôle extrêmement important, aussi bien pour financer l'Union africaine, pour financer un certain nombre de mouvements dans la bande sahélienne. Et qu'on le veuille ou non, il avait un rôle qui participait de la stabilisation du Sahel. Et lorsque le colonel Kadhafi a été assassiné, ça a été aussi le moment d'un signal qui a été donné pour un certain nombre de groupes armés de repartir de Libye massivement armés et de tenter pour des mouvements, par exemple Touareg, d'obtenir une certaine autonomie, qui est quelque chose de tout à fait récurrent depuis les années 60. De manière récurrente, il y a des mouvements armée. Ça a été évidemment parce qu'il y a un différentiel énorme si on regarde le Mali, si on regarde le Niger, entre le développement du sud du pays et le développement du nord du pays. Des populations qui ont été relativement marginalisées dans le nord de la bande sahélienne. Et donc l'opération qu'il y a eu en 2011, hein, pour rappel, c'est d'abord une opération au départ franco-britannique. Ça fait partie des dossiers extrêmement difficiles à comprendre, mais la France-Afrique, c'est aussi ça. Hein, j'ai parlé de ses piliers institutionnels, de son volet tout à fait officiel. Il y a aussi, évidemment, pour que la France-Afrique perdure, c'est parce qu'il y a eu, de la part des élites françaises et des élites africaines, un certain nombre de personnages qui ont eu tout intérêt à ce que perdurent des liens avec des flux d'argent allant tantôt vers le sud et tantôt vers le nord. Hein, donc des élites aux intérêts bien compris. Donc voilà, ce qui s'est passé en 2011, c'est vraiment une déstabilisation énorme de toute la bande sahélienne auxquelles sont confrontés aujourd'hui les trois pays dont on parle. S'agissant du Niger, les évolutions actuelles, on peut voir d'un côté des déclarations françaises du président Emmanuel Macron qui sont très souvent mal prises par la rue au Niger. Alors pourquoi ? Il faut voir que donc, la présence des militaires français depuis 2013 dans la bande sahélienne, au fil des années, est de plus en plus perçue comme une force d'occupation. Pourquoi ? Parce qu'elle a été relativement inefficace pour venir à bout des groupes armés auxquels font face ces différents pouvoirs. Du coup, cette force française, qui a priori été vue comme étant une force extrêmement armée, avec des moyens modernes d'intervention, les populations ne comprennent pas pourquoi est-ce que, au Mali, on n'a pas été capable de réduire les différents mouvements rebelles, que ce soit des mouvements djihadistes ou des mouvements autonomistes Touareg. Il y a eu un épisode aussi à Kidal, où l'armée française et l'armée malienne ont réussi à gagner du terrain. Donc Kidal, qui est dans le nord-est du pays. Aux portes de Kidal, il y a eu un ordre de stopper de la part de l'armée française. Et l'armée française a interdit en fait à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Donc quelque part, il y a eu en fait un accord pas tout à fait officiel entre certaines forces Touareg et l'armée française qui a été extrêmement mal vécu par l'armée malienne d'abord et ensuite par l'opinion publique malienne lorsque ça s'est su. Toujours au Mali, il y a eu un moment un bombardement à Bounti, dans un village, soi-disant un bombardement français sur des forces djihadistes. En fait, il s'est avéré, il y a eu une enquête de l'ONU, que ce qu'il y avait sur place, c'était surtout un mariage. Pour venir au Niger, fin 2022, je crois, il y a eu un convoi de l'armée française qui a d'abord été stoppé pendant une dizaine de jours au Burkina Faso et qui après devait rejoindre Gao au Mali en passant par le Niger. Et dans la ville de Téra, au Niger, les militaires français ont fait face à des centaines de manifestants demandant à l'armée française de partir. Et l'armée française a fini par tirer. Il y a eu deux morts. Voilà. Et le président Bazoum, à l'époque, a voulu calmer le jeu, n'a pas appuyé véritablement dans le sens d'une enquête pour savoir véritablement ce qui s'était passé. Il s'est certainement entendu avec Paris. Et ça a été mal vécu par les populations, évidemment. Voilà pourquoi, même si au départ du coup d'État, on pouvait considérer qu'il y avait le renversement d'un président légitimement élu, lorsque la France a voulu donner du poing et faire la grosse voix en disant qu'il fallait rétablir le président Bazoum, ça a été extrêmement mal vécu. Et en fait, il y a maintenant, à chaque fois qu'il y a un renversement dans un certain nombre de pays, ce n'est pas très difficile d'être appuyé par l'opinion publique en agitant le mot d'ordre, à savoir l'armée française doit partir. Il y a un réflexe qui est quasiment systématique. Ça peut être parfois pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, mais on ne peut que effectivement constater la longue période d'impunité des exactions françaises en Afrique. J'ai parlé de 2011 et de l'intervention française en Libye. En 2010-2011, il y a eu une lourde intervention française en Côte d'Ivoire. Donc là, on est plutôt sur les pays côtiers. Ça a succédé à une dizaine d'années d'intervention française en Côte d'Ivoire, avec deux épisodes où il y a eu véritablement des massacres. D'abord en 2004 à Abidjan, l'armée française a tiré dans la foule, il y a eu à peu près une soixantaine de morts. Il y a des images de Canal+ qui permettent de comprendre à peu près ce qui s'est passé, à la fois des tirs d'hélicoptères français sur des manifestants, sur les ponts, sur la lagune Ébrier à Abidjan, et devant l'hôtel Ivoire, des tirs à partir de blindés français sur une foule désarmée. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué l'opinion publique. La France a réussi à installer effectivement Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire à l'issue d'élections où il y aurait beaucoup de choses à dire. Elle a en tout cas installé un président qui est vraiment à sa botte aujourd'hui. Alassane Ouattara est l'un des premiers à demander le rétablissement du président Bazoum au Niger. C'est aussi le premier à vouloir que le franc CFA perdure dans la sous-région. Et aujourd'hui, tout se sait à travers les réseaux sociaux. La désinformation circule. On a parlé, Alassane le disait, effectivement, de la désinformation issue des réseaux russes. Mais cette désinformation, elle ne pourrait pas si bien opérer si à l'origine, il n'y avait pas toutes ces bonnes raisons de vouloir demander le départ de l'armée française et la fin du franc CFA et tout un tas de choses. Hein, et donc, il n'y a pas d'autre solution que de quitter le Niger. Hein. Et c'est la seule manière qu'on a de redevenir crédible dans ces pays-là, c'est sans doute de se retirer, dans un premier temps, et sans doute pour quelques années. Et après, une fois qu'on aura fait la preuve, qu'on aura su baisser d'un ton et respecter un petit peu plus la parole de la société civile africaine, la parole des gens qui sont au pouvoir, eh bien, on redeviendra un petit peu plus crédible. Et à Washington, maintenant, on dit que la France est devenue radioactive. Les Américains ont aussi leurs intérêts, bien évidemment. Et dans le nord du Niger, il y a à peu près un millier de soldats américains qui sont présents près d'Agadez. C'est surtout une base avec des drones qui permettent de faire du renseignement dans toute la bande sahélienne. Et on a vu une attitude de Washington qui a tenu à se démarquer des positions françaises récemment. En fait, le département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, refuse obstinément de qualifier de coup d'État ce qui se passe au Niger. Il y a évidemment un coup d'État qui s'est passé, mais si le département d'État parlait de coup d'État, la loi américaine ferait qu'il y aurait automatiquement un stop qui serait mis à tous les programmes d'aide, y compris la coopération militaire, et les soldats américains devraient décamper. Donc ça, les Américains veulent éviter à tout prix. Donc les Américains étaient un petit peu aussi présents à Niamey. Ils ont mis leurs hommes au nord, hein, parce qu'ils ont bien compris qu'à Niamey, la situation était véritablement inflammable. Ils essayent, eux ne sont absolument pas pour une intervention de la CDAO, j'en ai pas parlé, mais pendant des semaines, il a été question d'une intervention des pays ouest-africains, au premier rang desquels le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, c'est-à-dire, surtout à part le Nigeria, des pays où sont présents vraiment de manière importante des troupes françaises de manière quasiment permanente. Cette opération de la CDAO, il en est de moins en moins question, parce qu'on craint que ça débouche sur un bain de sang, et en tout cas, Washington n'appuie absolument pas ça. Et même au niveau allemand, on a vu des livraisons, je crois, de matériel allemand à l'armée burkinabé récemment. Donc on voit que la France est en train de perdre du terrain en termes de... jusque-là, il y a eu tout le temps l'idée, pendant longtemps, de mettre en avant des résolutions de l'ONU pour légitimer des opérations, puis de mettre en avant des partenariats au niveau européen pour ne plus être les seuls à intervenir sur le sol africain. Mais les partenaires français, maintenant, ont bien compris que Paris était complètement disqualifié et refuse d'aller dans le même sens.
Alors, l'Empire, comme c'était le titre, l'Empire qui ne veut pas mourir. Donc, on est effectivement dans cette situation. Alors, la France part, elle va partir, elle n'a pas fini de partir, et les réactions françaises sont d'un ordre tel que c'est tout juste si Macron ne crée pas les conditions pour que la France soit renvoyée de tous les pays. Parce que même si la situation dans les différents autres pays est un peu différente, l'information circule énormément en Afrique et ailleurs, et les gens regardent ce qui se passe, et évidemment ce sentiment anti-français, entre guillemets, qui serait long à expliquer, gagne l'ensemble des anciennes colonies françaises, alors que vous voyez que la situation dans les anciennes colonies anglaises, elle est plutôt stable, on va dire. Hein. Par exemple, les deux pays importants pour la France, qui sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sont dans des situations, pour ce qui est des positions françaises, extrêmement délicates. En Côte d'Ivoire, on est à la fin du règne de Alassane Ouattara. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et au Sénégal, si vous suivez, vous avez vu qu'on empêche un candidat populaire de se présenter. Et on a eu des émeutes et on risque d'avoir une situation qui s'aggrave de pire en pire. Donc la France est sur le départ et ce n'est pas fini. Alors est-ce que c'est définitif? J'ai du mal à le dire. Comme je vous dis, je suis quand même de ceux qui pensent qu'on n'a pas de visibilité parce que la situation dans ces pays peut changer assez rapidement. D'autant plus pour ceux qui sont en guerre où les renversements sont totalement imprévisibles, y compris sur le front militaire, en fait. Aujourd'hui, un pays comme ça, alors les gens vont se plaindre qu'il est parti chez les Russes, qu'est-ce qu'il a à sa disposition? David a dit beaucoup de choses sur l'armée française, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste dire une chose que j'ai découvert en cherchant un peu. Lorsque je me suis rendu compte qu'au bout de 7 ans de guerre, l'armée burkinabé n'avait toujours pas d'armes. En tout cas, pas d'armes lui permettant de faire la guerre. Elle a en face, effectivement, des groupes difficiles à identifier, mais qui circulent en mobylette et qui a beaucoup de kalachnikov, etc., qui petit à petit, sans doute, arrivent à récupérer des armes de l'armée burkinabé et qui en reçoit sans doute beaucoup. Donc je me suis posé la question et je cherchais et j'ai fini par regarder le rapport de la commission des affaires étrangères, de la commission de défense nationale, où on a tous les ans le rapport des exportations d'armes françaises dans les autres pays. Donc aucune arme livrée au Burkina Faso depuis 2013. Et il y a eu une première livraison au moment où les Français ont commencé, où il y a eu les premiers coups d'État et les Français se sont rabattus sur le Niger. C'est là qu'on voit une fourniture d'armes au Niger. Alors j'ai essayé de fouiller. Donc première question, vous faites la guerre dans un pays où vous formez certes les soldats, mais si l'armée burkinabé n'a pas d'armes, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites quoi là-bas? Parce que maintenant, ce qui est de plus en plus probable, c'est que non seulement la France n'a pas fourni d'armes, mais elle a empêché les dirigeants de ce pays d'acheter des armes. Donc ça, c'était important de le dire au début, parce que sinon, j'allais oublier. Après, j'ai un exposé très long, donc je ne vais évidemment pas le faire. Donc je vais essayer d'aller très vite sur ce que ça représente, la présence française en Haute-Volta depuis l'indépendance. Une chose intéressante, c'est que la Haute-Volta a refusé que la base française reste. C'est un des pays, parmi les voisins, c'est le seul pays qui a refusé une base française. Mais le président n'était pas fondamentalement anti-français, mais il y avait un peu cet esprit sans doute d'indépendance. Donc les Français sont... Il y avait beaucoup de conseillers, etc. La présence française, elle n'était pas fondamentalement importante. Le commerce avec le Burkina Faso, j'ai des chiffres récents, est peu important. 200 000 euros par an d'importation et le Burkina exporte 20 000, 30 000, enfin ça varie sur les années, quelques dizaines. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors ça veut pas dire que... Alors il y a quand même des entreprises françaises, hein. J'ai quand même la liste là, plus ou moins. Vous avez Orange qui est récente, vous avez une entreprise dans le coton, vous avez le bâtiment avec Vinci, vous avez Bolloré qui est en train de partir, parce que Bolloré est en train de se décharger de tout le circuit de transport qui s'était battu pour avoir. Vous avez la Société Générale, vous avez Total dans le coton, etc. Et vous avez aussi pas mal de petits entrepreneurs français qu'on chiffre à plusieurs centaines, qui ont souvent des hôtels, etc. Fondamentalement, c'est une question de présence politique qui est la raison de la présence française. Et cette histoire de reconnaissance de la place de la France au Conseil de sécurité est aujourd'hui vitale pour la France. Parce que vous avez des pays comme l'Inde, qui sont des puissances qui sont bien plus importantes que la France, qui tapent à la porte, et cette présence va être contestée. Et c'est aussi une des raisons de l'arc-boutement de la France. Donc l'histoire, on va passer assez vite. Alors d'abord, il est important de dire qu'au Burkina Faso, on a eu des militaires au pouvoir de 1970 à 2014, et ce qui est une très longue période. Simplement, la présence militaire avait des caractéristiques très différentes les unes des autres. Il y avait des coups d'État, comme on les imagine, avec l'armée dans la rue, partout, on arrête des gens, etc., on restreint les libertés. Et il y a eu des périodes, par exemple, c'était on dit que c'est l'armée qui était au pouvoir, mais il y a eu des élections en Volta, le seul pays où il y a eu des élections avec un ballottage en 1974. C'était un militaire, etc. Donc vous voyez, c'est toutes ces différences. Vous avez le pouvoir de Blaise Compaoré, qui a changé de tout au tout. Blaise Compaoré, donc, il est arrivé en octobre 87, il a participé à l'assassinat de Sankara, il est resté jusqu'en 87, une insurrection populaire que David appelle une révolution, mais c'était en tout cas quelque chose d'extraordinaire. La dernière transition mise en place par Ibrahim Traoré est carrément une caricature de ce qu'on pourrait aller, une fausse concertation, avec des réunions qui sont organisées à la va-vite. Par exemple, la charte de la transition a été distribué aux gens qui faisaient la réunion que la veille à 16h. La salle est remplie par des partisans, etc. En 2014, après l'insurrection, vous avez eu la société civile qui a pris les choses en main, qui s'est confrontée avec l'armée, et c'est l'ensemble du pays qui a eu un consensus. Bon, c'est très long à vous expliquer, mais c'est vraiment une transition qui a été organisée par un consensus et qui n'a été contestée par personne. Aujourd'hui, le problème... Et c'était à la suite d'une insurrection, donc on n'était pas du tout dans une situation actuelle. Ibrahim Traoré, il a pris le pouvoir par quelque chose qui ressemble à une insurrection, parce que les gens, on n'en veut plus des partis politiques, et le Damiba qui était avant avait promis qu'il allait partir en guerre sérieusement, et en fait il s'est occupé simplement de réhabiliter Blaise Compaoré. J'exagère un peu, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et surtout le jour où il a fait son coup d'État, il a fait, sciemment ou pas, courir le bruit que le Damiba était sous la protection des autorités françaises. Et c'est seulement à ce moment-là que la population a envahi la rue pour soutenir les putschistes. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il est arrivé, c'est un illustre inconnu, Ibrahim Traoré. Un illustre inconnu qui veut bien faire, c'est un peu ça qui fait sa popularité. On voit quelqu'un d'extrêmement sincère, de volontaire, qui, un patriote, il a refusé Wagner. Il paraît qu'il y a eu des négociations, mais j'imagine que l'argent que demandait Wagner était tellement important que, comme il s'est présenté comme un patriote, comme quelqu'un qui disait « Nous, les Burkinabés, on va faire notre guerre », il ne pouvait pas accepter de signer Wagner. Donc, alors je reviens. Alors, la lutte contre la France-Afrique au Burkina commence vraiment sous Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était le représentant de la France-Afrique à la tête de son pays. Il a pris la place du Houphouët-Boigny et il était l'homme de la France dans la région sur laquelle elle s'appuyait. Il essayait de maintenir une certaine stabilité dans la région, parce que le pire pour les Français, c'est effectivement d'être chassé par des révoltes dont on ne sait pas en général ce qu'elles vont devenir, comme il y a aujourd'hui, parce que finalement, ce dont on assiste aujourd'hui, ce sont finalement des révoltes des peuples africains, c'est simplement les militaires qui ont donné le signal de ces révoltes, mais en tout cas une révolte non seulement contre l'armée française, mais contre leurs anciens dirigeants. Burkina Faso, en tout cas, le gouvernement essaye de ne pas faire appel à des hommes politiques. Cela dit, je ne voudrais pas être aussi sévère avec le gouvernement actuel, parce que il est dans une situation extrêmement difficile, et il est clair qu'il n'est pas préparé à cette situation. Il fait ce qu'il peut, et malheureusement, il ne peut pas compter sur les partis politiques parce que les gens n'en veulent plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des phénomènes qui sont inquiétants, c'est qu'on ne veut plus d'élections, et les gens ne veulent plus d'élections, je pense qu'il l'a dit. C'est normal qu'on ne veuille plus d'élections. Quand on regarde comment se passaient ces élections, les candidats se trimbalaient avec des billets de 1000 francs CFA partout, ils distribuaient de l'argent, et s'ils ne viennent pas avec cet argent, les gens ne viennent pas dans les meetings. Il y a eu un nouveau parti qui s'est créé, dont le dirigeant est un ancien du Ballet Citoyen, qui a créé un parti qui s'appelle Sens. Servir et non se servir, c'est pour vous dire le programme du mouvement. Ils ont décidé de faire les élections sans distribuer d'argent. Ils n'ont pas fait un mauvais score, puisqu'ils sont arrivés 8e à Ouagadougou sur environ 40 partis politiques. Il y a tout de même une certaine inspiration de ce qu'a fait Thomas Sankara, notamment de la part du Premier ministre, qui lui est un ancien avocat et qui a écrit le plus gros livre sur la Révolution. Donc, il connaît un peu cette Révolution. La seule différence, c'est que, pour rigoler, ses opposants lui sortent quelques exemples de ses interventions, parce qu'avant d'être Premier ministre, apparemment, il n'était pas tellement avocat, il participait à des débats à la télévision, et voilà le genre de choses qui sortaient. Par exemple, une fois, on le voit en train de dire que Macron, c'est un révolutionnaire. Et il défend mordicus devant tout le monde que Macron est un révolutionnaire. Une autre fois, il reconnaît qu'il est pour une monarchie constitutionnelle. Donc on ne peut pas se réclamer de Sankara. Monarchie constitutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le roi des Mossi dirige le pays. C'est ça que ça veut dire, même s'il y a une assemblée, etc. On ne peut pas. Donc vous voyez un peu le... Alors, par contre, il essaye tous les jours, je ne vais pas dire tous les jours, mais il essaye de mettre en place en permanence des programmes de développement, mais les gens le regardent. Alors, il y en a qui soutiennent, chouette, on va faire comme Sankara. Par exemple, ils ont mis en place un programme de comment ça s'appelle, de participation populaire à la création d'entreprises, etc. Donc, ils font beaucoup de propagande pour que les gens donnent là. Alors, sur la réception de la population, c'est là où il faut comprendre la détresse totale dans laquelle est cette population. Elle a connu tous les espoirs possibles et tous les déceptions possibles. Elle a un gars qu'il faut reconnaître, qui a de la bonne volonté, mais qui ne sait pas sur qui s'appuyer. Et j'imagine, si son Premier ministre, c'est celui de, alors, dont je vous ai parlé, je vous ai donné que ses défauts, etc., c'est sûr que c'est pas les meilleurs conseillers politiques. Donc il se retrouve un peu perdu. Il est massivement soutenu par la jeunesse, en tout cas une bonne partie d'entre elles, simplement sur le fait qu'il a mis les Français dehors et parce qu'il dit que Sankara, c'était un bon gars et qu'il faut faire comme lui. La grosse différence, c'est que quand Sankara a pris le pouvoir, il avait avec lui un certain nombre de dirigeants politiques qui étaient clandestins, qui ont travaillé avec lui. Même si lui, il émerge, il y avait des groupes politiques avec un certain nombre de militants qui se sont occupés de mettre en place ces CDR. Là, il s'appuie sur qui? Et il y a même des éléments qui montrent qu'il s'appuie sur les wahhabites qui, au départ, par exemple, arrivaient à faire en sorte que dans les meetings, on termine par des prières, ce qui n'était jamais arrivé au Burkina Faso jusqu'à maintenant. Il faut comprendre la détresse non seulement de la population, mais du président, même s'il semble être sûr. Les informations qui arrivent montrent plus ou moins que on ne progresse pas. Moi, j'ai été en juin là-bas. J'en ai été resté, j'ai été en juin, j'ai passé un mois, j'en ai été resté au fait que les terroristes, là-bas, le mot qu'ils emploient, c'est hommes armés non identifiés, parce qu'il n'y a pas que des djihadistes, il y a des bandits, il y a des milices qui. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui viennent prendre des armes et qui viennent occuper les maisons que les gens ont désertées par la crainte du terrorisme. Donc, voilà un peu la situation de ce pays. Un peu. Donc le président est seul, et donc il a été demandé une centrale nucléaire à Poutine. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors là-bas, ça ne fait pas rire, mais nous-mêmes, on aurait peur, quoi. Dans un pays en guerre, où la moitié du pays est occupé par les terroristes, c'est vrai que pour l'instant, ils tiennent Ouagadougou, mais il y a des villes, les villes du Nord, sont quasiment sous embargo. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus approvisionnées. Et donc, je suis arrivé là-bas, et là, j'apprends, en fait, en arrivant, qu'il y en a dans tout le pays. J'ai même des amis qui sont à Banfora, qui sont dans le sud, ils m'expliquent que les terroristes, ils sont partout, et ils sont d'une volatilité incroyable. Et la question, et je vais terminer là, c'est que on a l'impression que, d'abord, cette guerre est très difficile à gagner. quelle que soit la stratégie qu'on va. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop taper sur les gens. Ils font ce qu'ils peuvent, ils ne sont pas aidés, etc. Mais il ne semble pas y avoir une stratégie globale. Et d'ailleurs, comment voulez-vous faire une stratégie globale ? Les gars occupent des villages, ils occupent. Quelqu'un m'a fait comme ça, il m'a dit voilà, il y a
qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans ton pays ? C'est normal qu'il l'ait.
Et il y a une espèce de maillotage comme ça. Et donc, comment on fait la guerre dans un pays comme ça ? Donc voilà, la situation est dramatique et on est un peu loin de la France-Afrique, mais en tout cas, la France dehors, ça c'est oui.
Si Drissa veut parler, je lui donne la parole, mais qui est burkinabé, mais il n'est pas obligé, il est comme il veut. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans ton pays ? C'est normal que les gens veulent savoir.
Et ici, la diaspora suit l'évolution de l'association avec consternation. Sur la capitale, encore ça va, hein, je parle de ceux qui sont en province, qui sont vraiment dans les pays profonds, qui du jour au lendemain reçoivent des visites des terroristes, qui les somment de partir. Ce sont 12 heures avec tout ce qu'ils avaient comme affaire comme ça chez eux. Il y a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain ruinés parce que toute la richesse, encore on peut essayer de quantifier en termes de bétail, qu'ils utilisent pour l'agriculture, tout ça, sont obligés de les brader du jour au lendemain parce que sauf qu'il peut, quoi. Donc voilà, ça c'est un drame. Donc tout ça rassemblé fait que quand quelqu'un comme Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, nous il a parlé d'une certaine division de la population. Voilà, entre ceux qui pensent que c'est la solution parce que lui au moins quand il est venu, il a tracé au moins le chemin pour dire on ne négocie pas les terroristes, on va faire la guerre, on va s'armer.
Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans ton pays ?
Parce que la France aujourd'hui ne veut pas nous donner les armes, parce qu'il faut tant que ils ne veulent pas qu'on donne des armes aux civils qui sont des VDP, alors qu'on les donne aux civils en Ukraine. Donc tout ça, est-ce que c'est pas des positions un peu de deux poids, deux mesures ? Et nous, comme vous ne voulez pas nous vendre des armes, on va aller les prendre. La Russie, tout ça. Après, le cas de la Russie, ça reste aussi un choix aussi, très compliqué, parce que les gens se disent, alors tout ça, c'est quoi ? C'est l'accumulation d'un certain... je ne sais pas comment ils disent ça, en fait. Les gens, ils en ont marre de savoir que ça dure. Ça fait plus d'une dizaine d'années, voilà. Il y a un président qui a fait 27 ans au pouvoir, qui est Blaise Compaoré, qui a dégagé. On a dit qu'on voulait la démocratie, on est allé aux élections, il y avait un civil au pouvoir. Le civil qui vient après le terrorisme commence, ce gars est là, il n'y a rien qui avance. À un moment donné, les gens se retrouvent. Aujourd'hui, plus de 40% du pays qui est occupé. Donc, c'est fatigant. Les gens qui sont en ville aussi aident les familles. Donc, même...
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.